Vous écoutez
RMC.
Excellent réveil et très belle année à tous. Il est 7h sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le bilan des victimes françaises s'alourdit après le drame de Crans-Montana en Suisse. 9 Français parmi les 40 morts. 23 départements en plein hiver polaire, neige et verglas s'abattent ce matin sur l'ouest de la France. Et les cabinets et les cliniques seront désertés aujourd'hui et ce pour 10 jours. Les médecins entament une grève partout en France.
Le bilan des victimes françaises est revu à la hausse après le drame de Crans-Montana.
Ouais, l'identification des corps est terminée. L'annonce a été faite hier par les autorités suisses. Justement, Ameline Lafchin, vous êtes en direct de Crans-Montana pour RMC. 9 Français font donc partie des 40 personnes décédées la nuit du Nouvel An.
Oui, et parmi eux, 3 sont mineurs. Le plus jeune n'a que 14 ans. Les deux autres, eux, sont âgés de 15 et 17 ans. Parmi les victimes qui ont péri dans l'incendie, il y a aussi un jeune homme de 20 ans, une femme de 33 ans et une jeune Toulousaine de 26 ans partie fêter la nouvelle année dans le bar Le Constellation le soir du drame. On sait également que parmi les victimes françaises, 2 d'entre elles y travaillaient ce soir-là. Il y a d'abord Siane, une serveuse franco-suisse, âgée de 24 ans, originaire de Sète dans l'Hérault, et le DJ de la soirée, Matteo, 23 ans, originaire d'Angers. Enfin, le plus âgé est un Vosgien, Giovanni, 39 ans, père de 2 enfants de 3 et 5 ans. Il était parti s'installer en Suisse il y a 3 ans. Le Quai d'Orsay précise aussi que lors de l'incendie, 23 Français ont été blessés et que 6 d'entre eux sont sortis de l'hôpital.
Ameline Lafchin, envoyée spéciale RMC à Crans-Montana en Suisse.
Et si vous voulez témoigner aussi de la question des normes de sécurité dans les bars, dans les boîtes de nuit, n'hésitez pas à nous appeler au 3216 parce qu'on en reparlera juste après votre journal, Clément, avec le patron de l'Union des métiers de l'hôtellerie d'Île-de-France. Il est 7h02 sur RMC et le grand froid s'installe sur la France.
3/4 du pays est concerné, particulièrement 23 départements de la Charente-Maritime à l'Île-de-France en passant par le Finistère. Vigilance orange pour risque de neige. Justement, Martin Lange, vous êtes en direct de Liffré en Ille-et-Vilaine et aucun transport scolaire ne circule aujourd'hui.
Oui Clément, rentrée scolaire perturbée ce lundi. La décision de suspendre ces transports scolaires a été prise hier soir un peu après 19h pour toute l'Ille-et-Vilaine. Les 3 autres départements bretons sont aussi concernés mais l'annonce a été faite bien plus tard, vers 21h environ. Des mesures de précaution évidemment, même si ce n'est pas toujours facile pour les parents de s'organiser dans un délai si court. Alors pour l'instant, là où je suis à Liffré, la neige n'a pas encore fait son apparition, mais le verglas est bien présent sur la route avec beaucoup de givre également. Concernant les flocons, ils commencent à tomber sur la Manche, en Normandie, un peu au nord, et devraient atteindre la Bretagne en fin de matinée. 3 à 7 cm sont annoncés, jusqu'à 10 cm sur les hauteurs. Une neige qui pourrait tenir toute la journée grâce aux températures négatives annoncées. C'est ce qui inquiète d'ailleurs les autorités qui ont aussi limité la circulation des poids lourds. Interdiction totale sur le réseau national et restriction de vitesse sur les autres axes.
Martin Lange, en direct d'Ille-et-Vilaine pour RMC. Un énième féminicide en France, cette fois-ci à Brest. Une femme a été retrouvée morte hier matin à son domicile. Son compagnon, déjà connu des services de police pour des violences conjugales, a été interpellé et placé en garde à vue.
La colère des médecins ce matin.
Une fermeture de cabinets médicaux, report d'opérations. Plus de 13 000 médecins entament aujourd'hui 10 jours de grève. Objectif, protester contre certaines mesures dans le budget de la sécurité sociale, notamment le contrôle des prescriptions d'arrêt de travail. La mobilisation s'annonce massive. Reportage de Pierre Bourgès.
Dans sa salle d'attente, des affiches préviennent ses patients. Le cabinet d'Hermann Neufer sera fermé ce début de semaine et il fait grève.
Je suis un passionné dans mon métier. À un moment, je vais partir à la retraite et partir usé, c'est horrible. J'ai jamais imaginé que ça puisse arriver un jour.
En 30 ans de métier, il n'avait jamais vu sa profession autant attaquée, dit-il. Et parmi les mesures qui le choquent, cette mise sous objectif des médecins qui prescrivent trop d'arrêts de travail sous peine d'amende.
Je fais quoi ? Je refuse un arrêt de travail à une personne déprimée au risque qu'elle elle va se suicider, ou alors je l'arrête quand même, et c'est moi qui va payer jusqu'à 15 000 euros si je rentre pas dans les objectifs.
Les patients sans médecin pourront quant à eux appeler le 15 s'il y a une urgence, précise Sophie Bauer, présidente des syndicats des médecins libéraux.
Que ce soit gênant, on en a conscience, mais à un moment, c'est le seul moyen, je dirais, de défense que nous avons. Notre profession est attaquée de toutes parts par un certain nombre de parlementaires qui, encore une fois, ne se rendent même pas compte de ce que nous faisons au quotidien. Et bien là, ils vont voir ce qu'on fait au quotidien puisque nous ne le ferons plus.
Et pour assurer la continuité des soins, des réquisitions de médecins pourront être ordonnées, a prévenu la ministre de la Santé hier.
Et appelez-nous au 3216, vous êtes patient ou soignant. Appelez-nous justement pour témoigner et ne manquez pas à 7h40 le docteur d'RMC, Jérôme Marty, qui sera en direct dans Apolline Matin.
Une image historique, Apolline, qui va faire le tour du monde. Le président vénézuélien déchu, Nicolas Maduro, sera présenté à 12h heure française devant un juge fédéral de New York. Objectif, répondre à de lourdes accusations, narcoterrorisme et trafic international de cocaïne. Alors comment les Vénézuéliens réagissent à cette intervention américaine ? Alfred Orange est allé à la rencontre de la communauté vénézuélienne en région parisienne.
De la musique et une légèreté retrouvée. À l'heure où 2026 débute, la capture du président Maduro est déjà la meilleure nouvelle de l'année pour Arlène, vénézuélienne installée à Paris.
Ce moment, c'était incroyable, vraiment. J'ai eu envie de pleurer, de crier, parce que c'est un moment qu'on attend depuis longtemps.
À côté d'elle, Daniela le certifie, tant pis si l'intervention américaine a été brutale.
Je sais que c'est très polémique parmi beaucoup des gens en Europe. Ils sont contre l'intervention de Donald Trump, mais il n'y avait pas de moyens pacifiques de résoudre ce problème.
Parce que la situation dans le pays est devenue invivable, assure Barbara, qui a fui Caracas il y a 3 mois.
Là-bas, tous les jours, c'est l'incertitude. Tous les jours, on se réveille avec cette angoisse. Comment je fais pour trouver du boulot, pour étudier, pour manger ou pour trouver de l'argent?
Mais pas question pour Gilles que Donald Trump gouverne le Venezuela.
Aux Vénézuéliens de gérer et mettre en ordre tous les problèmes qu'il y a, pas les Américains.
Avec l'espoir pour ce musicien de tourner enfin la page du régime de Nicolas Maduro qui, dit-il, n'a fait qu'appauvrir notre pays.
Washington n'envisage une coopération avec Caracas que si le pouvoir en place change de cap. Si ce n'est pas le cas, l'embargo pétrolier restera en vigueur. La Maison-Blanche jugera désormais le Venezuela sur ses actes. Justement, la présidente par intérim du Venezuela plaide pour une relation équilibrée et respectueuse avec les États-Unis. RMC 7h07, le PSG remporte le derby parisien en Ligue 1. Le Paris FC n'a pas démérité hier soir, mais à la fin, ce sont les partenaires d'Ousmane Dembélé qui se sont imposés 2-1, Arthur Perrault.
Oui, les joueurs du Paris FC s'attendaient à un véritable cauchemar chez leurs voisins. Finalement, le milieu de terrain Maxime Lopez repart la tête haute.
Je trouve que ça va, on s'est battu avec nos armes, on a fait des choses intéressantes. Après oui, bien évidemment, on n'a pas fait un match non plus extraordinaire, mais moi je suis content parce que je pense qu'il y a énormément de personnes et de monde qui pensaient qu'on allait prendre une route aujourd'hui. On l'a pas prise, après les gens diront oui en mettant le bus, mais j'ai pas pris une route aujourd'hui, ça je suis très content.
Le PSG décroche un 11e succès en 17 journées grâce aux stars Ousmane Dembélé et Désiré Doué, satisfait de remporter ce match particulier.
On avait à cœur de gagner ce match, c'est important. On joue contre le Paris FC, nous on est le Paris Saint-Germain. C'était important de démontrer que voilà, on doit gagner ce genre de match et ce genre de derby.
Un constat partagé par l'entraîneur Luis Enrique.
J'espère que nous pouvons jouer dans l'avenir plus de derby. Ce sont des matchs différents et on aime avoir Paris FC dans la Ligue 1.
Mais le Paris FC aura l'occasion de prendre sa revanche dans une semaine au Parc des Princes, lors des 16e de finale de la Coupe de France.
Au classement, Lens est leader et compte un point d'avance sur le PSG et 8 sur le 3e, l'OM. L'OM qui a débuté l'année avec une défaite à domicile 2-0 contre Nantes.
Merci Clément, c'était le journal de Clément Guizzi. 7h08, au 32-16, vous nous appelez pour témoigner des conditions sur la route. La neige, 23 départements en vigilance, neige et verglas, tout l'ouest de la France quasiment. Et il y a Johan qui est avec nous au 32-16 et qui nous appelle d'Ille-et-Vilaine. Bonjour Johan.
Bonjour, bonne année, meilleurs vœux à vous.
Bonne année à vous, meilleurs vœux, la santé et la prudence sur les routes. Johan, vous êtes...
Bien entendu.
Vous êtes conducteur d'engin, sous la neige, oui. Là
Non, pas encore la neige, là. Sur la route, il fait froid, c'est le verglas sur les petites routes départementales, mais sur l'autoroute entre Rennes et Fougères, ça roule plutôt pas mal pour l'instant.
Ça roule encore, mais quand vous dites verglas, c'est-à-dire que pour vous rendre sur l'autoroute, vous avez fait gaffe, quoi.
Oui, voilà, oui. Oh, oui, bien sûr, ouais. 50, 60 km heure max, parce qu'on voit bien que, c'est gelé, ça brille sur la route, donc, méfiance.
Méfiance, il fait combien là au compteur?
Là, c'est où je suis, moins 4.
Moins 4 et vous êtes où exactement?
Je suis à Fougères.
À Fougères. Géraldine, oui. Qui est avec moi, on appelle à la prudence sur tout l'Ouest. Hein.
Oui, effectivement, parce que là, pour l'instant, les chutes de neige, c'est plutôt près de la Manche, mais elles vont se décaler plus vers le sud. Donc l'Ille-et-Vilaine sera plutôt vers le milieu de la matinée qui va commencer à neiger. Et effectivement, même quand il neigera plus, le problème, ça va être le gel, puisqu'il va faire encore très froid aujourd'hui. Et la nuit prochaine, donc jusqu'à demain matin, ça va être effectivement très glissant.
Et on le rappelle, il n'y a pas de transport scolaire sur toute la Bretagne et la Normandie ce matin. Merci Johan, soyez prudents, bonne route à vous. Il est 7h10 sur RMC. Ce drame qui a fait évidemment réfléchir toute une profession. Après l'incendie de Grand Montana en Suisse, le dernier bilan fait état de 40 morts, dont la moitié sont mineurs. Faut-il interdire les bougies étincelantes? Faut-il revoir la sécurité dans les bars dansants? Bonjour David Zenouda.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio avec nous ce matin. Vous représentez les patrons de bars et de boîtes de nuit en Île-de-France. Votre parti pris ce matin, c'est que oui, il faut faire évoluer les normes de sécurité pour la sécurité de tous. Et vous nous le dites dans un instant avec vos témoignages aussi au 32-16, il est 7h11.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14, merci d'avoir choisi RMC pour commencer l'année. Sommes-nous en sécurité quand on sort danser dans un bar après l'incendie à Grand Montana en Suisse? Le drame absolu, eh bien on se pose évidemment la question et on se la pose ce matin sur RMC. 40 personnes décédées, la moitié étaient des mineurs, 9 Français parmi ces décédés. Bonjour David Zenouda. Bonjour. Vous êtes restaurateur, vice-président de l'UMIH d'Île-de-France. Vous représentez l'hôtellerie, restauration, les bars, les restaurants. Et votre parti pris ce matin, c'est que il faut renforcer les normes de sécurité aussi en France. Ça vous a interrogé? Ça vous interroge tous?
Oui, évidemment. Ce drame nous remet en question toute notre profession, même si, encore une fois, on est dans un canton en Suisse et on n'est pas en France. Et la législation en France est évidemment assez drastique et très contrôlée dans
tant
nos
mieux,
établissements. Tant mieux, bien évidemment. Vous savez qu'on a eu un certain nombre de drames, à la fois dans le monde depuis une vingtaine d'années, et puis en France, il y a une dizaine d'années, notamment à Rouen, dans ce bar de nuit, où les causes étaient exactement les mêmes. Donc là, c'est plutôt de la malveillance et de la négligence, on va dire, de la part des propriétaires de ces établissements, plutôt que des, on va dire, que et des normes de sécurité qui ont été pas respectées. Alors que depuis maintenant 8-9 ans, on le sait, les contrôles sont réguliers, la vigilance est accrue, et puis encore plus demain, parce qu'avec
ce que vous voulez dire, c'est que depuis Rouen, la France a tiré les leçons. Est-ce que vous vous dites ça ne pourrait pas arriver aujourd'hui chez nous? En tout cas, avec les contrôles qui sont faits, avec les normes de sécurité, si elles sont bien appliquées.
Vous savez, tout peut arriver. Tout ce qui s'est passé, c'est une étincelle qui a déclenché ce drame. Et c'est une étincelle, et puis toute une chaîne d'événements qui ont fait que malheureusement, on en est arrivé à ce drame. Vous savez, aujourd'hui, dans un restaurant, quand on fait une crêpe Suzette devant le client, le danger est tout aussi important. C'est une question de manipulation, c'est une question de professionnalisme. Et aujourd'hui, ces fameux scintillants, il faut les interdire.
Les scintillants, ce sont donc ces espèces de bougies qu'on met souvent sur les gâteaux d'anniversaire. Et là, ils étaient attachés au culot de la bouteille de champagne, elle-même levée très haut par ces jeunes. Et ça a touché le plafond. Il faut les interdire, ces scintillants.
Oui, surtout qu'on ait des solutions.
Ça suffit, quoi. On met des bougies.
On met du LED.
Vous savez,
il y a déjà des... les entrepreneurs sont très réactifs et ont déjà proposé sur le marché des solutions où on met du LED sur les bouteilles qui ont exactement le même effet que les scintillants. Minimisons les risques. Prenons en cause cette...
Donc, on interdit les scintillants. Est-ce que il faut aussi revoir la distinction entre bar, boîte, lieu de danse? On a l'impression que là, il y avait un peu tout mélangé, mais il n'avait pas l'appellation discothèque à proprement parler, qui est beaucoup plus contraignante en termes de sécurité.
C'est cela. Il y a une vraie confusion aujourd'hui dans l'esprit du grand public, mais c'est vrai qu'avec cet événement, on est en train d'expliquer un peu la différence. Et puis, les mœurs ont évolué depuis une trentaine d'années. On danse un peu partout. On danse dans un bar, on danse dans un restaurant, on danse dans un café. Aujourd'hui, on danse même dans des PMU. Donc, il faut... et on n'est pas des discothèques. Donc, en fait, le principe de danser dans un établissement, c'est est-ce que la danse est accessoire, est-ce que la danse est l'élément principal de l'établissement.
Et en fonction de ça, c'est une classification, c'est une réglementation qui est différente. Qu'est-ce que vous demandez, vous, à l'UMI ?
Alors, c'est une classification qui existe déjà. Il y a un type qui s'appelle le type P pour les discothèques et un type N pour les cafés, bars, restaurants. Il est vrai que le chemin à faire entre les bars et la discothèque est encore un peu long. Il faut une classification pour rassurer tout le monde, à la fois les discothèques, parce qu'elles se disent il n'y a pas de raison que nous, on soit contraints à énormément de règles, et que les bars, non, puisqu'ils font danser occasionnellement et non pas quotidiennement. Et les bars ont besoin d'être assurés, et les assureurs aussi.
J'imagine qu'il y a aussi cette question-là, et puis ceux qui fréquentent tout simplement ces endroits. Est-ce que dans les jours qui ont suivi donc le drame de Grand Montana, est-ce que vous constatez aujourd'hui une baisse de fréquentation ? Est-ce qu'il y a eu une forme d'inquiétude, en tout cas de choc ?
Alors là, on était sur le premier week-end juste après le jour de l'an, donc effectivement, c'était pas encore la fin des vacances. Il y a un vrai choc, il y a une vraie prise de conscience. Il y a une vraie prise de conscience de la part des professionnels. On a vu sur tous les réseaux sociaux un certain nombre de professionnels qui ont décidé d'arrêter d'utiliser ces bougies.
Ces fameuses bougies.
Et puis, il y a une vraie prise de conscience pour rassurer la clientèle. Parce que si on ne prend pas conscience que dans nos établissements, il faut qu'on soit en sécurité et qu'il y ait des éléments qui rassurent nos clients, là, il faut changer de métier.
Donc, rassurons tout le monde pour pouvoir effectivement faire la fête, mais en toute sécurité. Les bougies étincelantes doivent être arrêtées. Merci en tout cas de le dire ce matin. David Zenouda, vice-président de l'UMI Île-de-France. Vous représentez donc les patrons des bars et des boîtes de nuit. Il est 7h19 sur RMC. Et c'est l'historien d'Apolline Matin qui vient de rentrer dans ce studio. Bonne année, Arthur.
Bonne année, Apolline.
Arthur Chevalier, la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro ce week-end rappelle au monde que les États-Unis sont bien les maîtres de l'Amérique.
Et oui, les États-Unis ont même inventé une doctrine pour justifier leurs interventions. Ça s'appelle la doctrine Monroe. Et ils l'ont déjà appliqué pour enlever d'autres chefs d'État avant Maduro.
Vous nous l'expliquez dans un instant. On dira aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas. On se retrouve dans 60 secondes sur RMC 7h19.
RMC, Apolline Matin.
7h21, bon réveil à tous. Quand l'histoire éclaire notre actualité, avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Très belle année. Et bonheur de la commencer avec vous. Le président déchu du Venezuela, Nicolas Maduro, doit être présenté aujourd'hui au juge américain. Et lors de sa capture ce week-end, Donald Trump a justifié cette intervention en évoquant la doctrine Monroe.
Et oui, il a même ajouté que cette doctrine était très importante pour les États-Unis. Alors, ce qu'on appelle la doctrine Monroe, c'est un pilier de la diplomatie américaine. C'est ce qui leur permet, en gros, d'intervenir où ils veulent et quand ils veulent sur le continent américain.
Alors d'abord, qui était ce Monroe ?
Alors, Monroe s'appelait James Monroe. C'est le cinquième président des États-Unis. Et pendant son mandat, en 1823, il pose une nouvelle règle. Cette règle, la voici. L'Europe ne doit plus intervenir dans les affaires américaines, y compris en Amérique du Sud. Autrement dit, ici, c'est chez nous. Alors, à l'époque, ça faisait du sens, puisque les pays européens se permettaient effectivement d'intervenir un peu où ils voulaient, quand ils voulaient. En échange, les États-Unis s'engageaient, eux, à laisser l'Europe tranquille. Bref, c'était la politique du chacun chez soi.
C'était plutôt pacifique ?
Alors, sur le papier, vous avez raison, c'était plutôt pacifique. Sauf que, dans les faits, ça va très vite devenir un prétexte pour justifier tout et n'importe quoi. Au nom de la doctrine Monroe, les États-Unis vont devenir les gendarmes de l'Amérique du Sud. Alors, en apparence, c'est toujours au nom de la stabilité du continent. En réalité, dès qu'un de leurs voisins ira contre leurs intérêts, les États-Unis interviendront militairement.
Comme par exemple à Porto Rico ?
Exactement. En 1898, les Américains envahissent Porto Rico. Ils prennent le contrôle de la monnaie, de l'armée, du territoire. Et aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, Porto Rico est toujours, Apolline, sous le contrôle des États-Unis. Porto Rico a une autonomie, mais n'a pas de souveraineté. Ils ne peuvent rien faire sans l'aval de Washington. Voilà, c'était une des premières applications concrètes de cette doctrine Monroe.
Avant l'arrestation de Nicolas Maduro, il y a eu des précédents ?
Alors, il y en a eu, mais pas tant que ça, puisque les Américains sont effectivement beaucoup intervenus en Amérique du Sud, 42 fois au total quand même, mais ils vont très rarement jusqu'à arrêter des chefs d'État. C'est arrivé en fait deux fois. D'abord en 1983, l'armée américaine envahit l'île de Grenade dans les Caraïbes. Le Premier ministre est arrêté et remplacé par un gouvernement provisoire. Et la deuxième fois, c'était en 1989, cette fois, ils envahissent le Panama et ils arrêtent son président qui s'appelait Noriega. Comme Maduro, Noriega était accusé de favoriser le narcotrafic. Alors soyons clairs, à chaque fois les Américains s'attaquent à des dictateurs qui exercent le pouvoir par la force, ce qui relativise un peu ce comportement impérialiste.
Donc finalement l'histoire se répète.
Oui,
Et non. Et non, puisque le Venezuela, ça n'a rien à voir avec Grenade ou le Panama en termes de taille et d'importance. Hein. C'est la première fois de leur histoire que les États-Unis enlèvent le président d'un aussi gros pays en Amérique du Sud. Donc c'est un tournant. Cette opération, c'est un avertissement pour toute la région. Si des chefs d'État veulent s'opposer à Donald Trump, ils savent désormais à quoi s'attendre.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Arnaud Demanche nous rejoint.
RMC.
Demanche pirate, le face-à-face.
Bonjour Arnaud.
Bonjour et bonne année.
Bonne année
les amis, bonne année Apolline.
Une bien belle année 2026.
Oui.
Dans le face-à-face tout à l'heure, on la commence très très bien cette année puisque ce sera la porte-parole du gouvernement, parce qu'on a un gouvernement.
Oui.
Et elle s'appelle Maud Bréjon.
Oui, on l'avait un peu oublié qu'on avait un gouvernement pendant les fêtes, mais on en a un. Oui. Redécouvrir notre gouvernement après le réveillon, c'est waouh, hein, ça ouf. C'est comme se réveiller avec une grosse gueule de bois et être à poil dans son lit entre Monique Barbu et Laurent Panifou.
Non.
Qu'est-ce que j'ai fait? Fais-moi un bijou, Arnaud. Non, Monique, tu piques. Tu es Barbu. Et tu veux pas même manger le Panifou aussi? Non, tu arrêtes, Laurent. Donc une nouvelle année qui commence en compagnie d'Emmanuel Macron qui nous a souhaité ses bons voeux. Alors dans une ambiance. Ah, j'avais envie de battre du pied moi en même temps, caliente. J'avais envie de lancer une queue-leu-leu. Il était là, mes chers compatriotes, bonne année. Nous allons voter le droit à mourir dans la dignité et c'est la guerre. Le pauvre, mais quel calvaire! Il devrait y avoir une loi pour avoir le droit de finir son mandat dans la dignité. Là, c'est pas pour ça. Alors, pour Noël, on avait commandé un budget 2026, souvenez-vous. Là, on est en 2026. On n'a pas eu de budget 2026. Il serait temps. Du coup, Maud Bréjon va devoir s'expliquer chez vous, mais on sait qu'elle aime pas ça. Quand elle est sur la défensive, vous avez remarqué, on dirait une ado blasée qui a pas rendu son devoir à temps. Elle est là, non, ouais, c'est bon, non, mais si vous voulez, moi je suis là parce que le président avait promis un budget, et bon, voilà, on en a pas, quoi. Donc, c'est bon, quoi. On va en avoir un bientôt. Qu'est-ce que vous me prenez la tête? Vas-y, l'État, il fonctionne. Merde, je sais pas. On a limité l'inflation. Le gouvernement est au travail. Donc, au bout d'un moment, je sais pas, faut arrêter de me briser les ovaires, quoi. J'ai eu ma belle famille pendant 15 jours. On est le 5 janvier. Les nièces qui crient, qui courent partout, qui m'ont écrasé de la bûche sur mon tapis blanc. J'ai la tête comme ça, ça va, quoi. Si j'ai des problèmes. Ça va être que ça pendant 25 minutes. 25 minutes de ça. Et puis, alors, on en parlait avec Arthur. Les États-Unis ont capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro. Et alors, à la base, il pensait aussi kidnapper le premier ministre français pour affaiblir l'Europe, pour choper le Groenland. Mais ils l'ont pas fait parce qu'ils étaient pas sûrs de savoir qui c'est en ce moment. La tête à force, ils sont rentrés dans Matignon, ils ont croisé Sébastien Lecornu avec son vieux pull Uniqlo avec un trou et son sac à commission avec les poireaux du marché. Ils se sont dit, non, c'est, ça peut pas être lui, le chef du gouvernement français. Et ils sont partis. Ouf, on l'a échappé belle. Allez, rendez-vous à tout à l'heure avec Maud Bréjon, même si ça la saoule, quoi. Ça, se lever à 5h du mat, c'est bon, se faire engueuler sur la radio de Moscato, hein, 5 janvier, vas-y, merci beaucoup. À 8h30. À tout à l'heure.
Plaisir de vous retrouver. Vous m'avez beaucoup manqué.
Ah, bon.
Il est 7h26. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et puis attention, attention à ne pas tomber malade. On va parler de la grève des médecins à 7h40 avec Jérôme Marty. Et puis Louis Sarkozy, la voix de droite est de retour. Ce sera donc à 7h50. À tout de suite. RMC 7h30.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Danjean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Ça n'est pas le moment de tomber malade. Les médecins entament 10 jours de grève aujourd'hui pour dénoncer le nouveau budget de la Sécurité sociale et pour faire face, le ministère envisage de réquisitionner des praticiens. L'identification des victimes a pris fin hier après l'incendie du Nouvel An à Crans-Montana en Suisse et le bilan est très lourd. 20 des 40 morts étaient mineurs. On compte également 9 Français. Et puis qui est aux commandes au Venezuela? Donald Trump assure que c'est lui et son administration après l'arrestation du président Maduro qui sera présenté à un juge cet après-midi.
C'est un mouvement qui s'annonce très suivi.
Celui des médecins, des villes, des cliniques et même des cabinets spécialisés qui vont tour à tour se mettre en grève à partir d'aujourd'hui et pour les 10 prochains jours. Un mouvement coup de poing en pleine épidémie de grippe pour protester contre plusieurs mesures du budget de la sécurité sociale et notamment la limitation des arrêts maladie. La mobilisation s'annonce massive, Pierre Bourgès, et il va falloir s'organiser.
Oui, attention, si vous avez rendez-vous chez le médecin, 85% des professionnels fermeront leurs portes au moins une journée cette semaine, selon un syndicat. Ensuite, les médecins spécialistes prendront le relais de la grève à partir de samedi. En cas d'urgence, il faudra donc appeler le 15 qui déterminera s'il faut vous orienter vers un autre médecin ou si vous pouvez patienter quelques jours avant d'en rencontrer un. Certains praticiens qui resteront ouverts ont aussi prévu des actions symboliques. Ils refuseront par exemple de transmettre des données à l'assurance maladie. Si c'est le cas, certificat de votre médecin, il vous faudra envoyer vous-même votre feuille de soins à la Sécu. Pour assurer la continuité des soins, des réquisitions de médecins pourront être ordonnées, a prévenu la ministre de la Santé hier.
Et ne manquez pas juste après ce journal à 7h40, le médecin généraliste Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre. Et puis je vous attends au 32-16. Est-ce que vous soutenez ou pas ce mouvement des médecins? Dites-nous.
Un nom et un visage pour chaque défunt. Les 40 victimes de l'incendie de Crans-Montana en Suisse ont toutes été identifiées 4 jours après le drame survenu la nuit du Nouvel An. La moitié d'entre elles étaient mineures et on compte pour l'heure 9 Français, un bilan qui peut encore évoluer. En fonction de l'état des 119 blessés, parmi eux figurent Artus, Edgar et Valentin, 3 jeunes Versaillais à qui un hommage a été rendu hier à l'église Sainte-Jeanne d'Arc où s'est rendue Solène Gardré pour RMC.
Une église pleine à craquer, si bien que des dizaines de personnes ont suivi la messe dehors, sur le parvis, comme Flavien et Gabriel.
Bah forcément, vu qu'on se dit qu'ils étaient dans les mêmes lycées que nous, on s'imagine à leur place.
Tous les jeunes sont touchés, quoi. On est tous jeunes, on sort tous, pour la plupart, et ça nous touche tous, et particulièrement à Versailles.
Car ici, tout le monde, ou presque, a un lien même lointain avec les lycéens blessés.
On connaît les gens de près ou de loin. Et si je les connaissais pas personnellement, c'est ma petite sœur qui était dans leur classe, c'est le frère d'un cousin.
Raconte Léonore, qui est venue surtout pour se recueillir.
Ce qui a été dur aussi, c'est peut-être les images aussi qui ont tourné. Donc je pense que la prière, sans images, sans histoire un peu gore et tragique, c'est quand même bien de se retrouver dans un lieu de paix. Loin de tout ça.
Un moment de solidarité, conclut Arthur.
Même si on ne les avait pas connus, ce seraient des familles qui sont touchées, des gens qui sont touchés aussi, donc c'est important d'être là.
Des hommages qui vont continuer. Mercredi, une nouvelle messe est prévue au lycée de 2 des jeunes blessés.
Il est 7h33 sur RMC. Dans quelques heures, le président vénézuélien sera présenté à un juge à New York.
Nicolas Maduro, capturé par les forces américaines samedi, va comparaître à 18h heure française pour se faire signifier ses chefs d'accusation, ceux qui pèsent contre lui. Il retournera ensuite à la prison de Brooklyn où il a été incarcéré. C'est sa vice-présidente qui a repris le pouvoir par intérim, mais à en croire Donald Trump... Ce sont bien les États-Unis qui sont aux commandes. Le président américain qui a également menacé la nouvelle présidente donc par intérim du Venezuela, ainsi que son voisin colombien. En France, c'est avec un parquet national dédié qu'on lutte contre le trafic de stupéfiants. Le PNACO, c'est son nom, voit enfin le jour 6 mois après la promulgation de la loi narcotrafic. Ces magistrats vont commencer à travailler dès aujourd'hui et recevront d'ailleurs la visite du ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Mode d'emploi de ce nouvel outil avec Constance Bostoen du service police-justice d'RMC.
Le principe est d'appliquer la même logique que ce qui existe contre le terrorisme, c'est-à-dire un parquet unique à compétence nationale pour centraliser et se saisir de toutes les affaires les plus sérieuses en rapport avec la criminalité organisée, comme par exemple les affaires liées au narcotrafic. Le PNACO sera aussi bien chargé de retrouver les auteurs des règlements de compte que de remonter les circuits financiers du trafic de drogue. Dès aujourd'hui, 170 affaires complexes lui reviennent, comme par exemple celle de l'évasion de Mohamed Amra, et ces affaires seront toutes traitées par 16 magistrats, 13 greffiers et une équipe d'assistants spécialisés et d'officiers de liaison. La procureure nationale anticriminalité organisée a d'ores et déjà annoncé le renfort de 10 magistrats supplémentaires d'ici le mois de septembre prochain.
Et il va y en avoir besoin tant les règlements de compte sur fonds de trafic de drogue se multiplient. Dernier exemple en date à Marseille hier soir où un homme a été tué par balle. Quartier de Belzins. Marseille qui commence très mal l'année aussi en football avec cette défaite à domicile hier après-midi contre Nantes. L'OM a perdu 2-0 et ne s'est jamais relevé des 2 expulsions de Vermeeren et Nadir. Un match complètement raté, Florent Germain.
Oui, les amoureux de l'OM n'ont pas eu la force de rester dans les tribunes. Alors que Marseille, réduit à 9, était mené 2-0 par Nantes, le vélodrome s'est vidé. L'OM a déjà mis en colère ses supporters.
Ils ont été nuls. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Dès qu'on prend des équipes faibles, on se met à leur niveau et on est faible. Et ce soir, on a été catastrophique.
On se sent vraiment humilié. Je pense que c'est le cas de tous les supporters. Ouais. On est vraiment très déçus. C'est un peu triste de commencer l'année 2026 comme ça.
Les motifs d'inquiétude sont nombreux. Un OM sans envie et désorganisé. Le gardien Geronimo Rulli méconnaissable. L'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang fatigué. Des jeunes comme Vermeeren ou Nadir trop naïfs et logiquement exclus. Roberto De Zerbi, l'entraîneur, n'a pas vu venir ce match raté.
Je n'ai vu aucun symptôme cette semaine et je n'avais aucun mauvais pressentiment. C'est ce qui me chagrine le plus. Si j'avais senti que mes joueurs allaient arriver au match avec aussi peu d'énergie, j'aurais retourné tout le centre d'entraînement de la commanderie.
Les joueurs et le staff auront le temps de vider leur sac. L'OM s'envole dès aujourd'hui pour le Koweït, 3 jours avant le trophée des champions face au PSG, comme un stage ou un petit ritiro loin de Marseille pour chasser les doutes et la déprime.
En tout cas, les deux premières marches du podium s'éloignent pour Marseille qui reste derrière Lens et le PSG. Le PSG vainqueur hier soir face au Paris FC de Buzyn.
Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Vincennes.
Et voici le prono de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 15, Jasmine de Vaux. L'outsider, c'est l'As et la de Jana.
C'était le journal des Lys d'Anjan. On part à 7h37 à Saint-Jean-de-Luz. Bonjour Guillaume.
Et bonjour.
Et bonjour Guillaume, bonne année. Saint-Jean-de-Luz, bonne année. Où il fait combien là au moment où on se parle?
-4.
-4 à Saint-Jean-de-Luz, c'est ultra rare, non?
C'est très très rare. En bord d'océan comme ça, on descend quasiment jamais en dessous de zéro. Et là, aujourd'hui, on est à -4, donc tout est gelé. Et c'est pas désagréable.
Oui, ça doit être beau, et en effet, ça change un peu. Guillaume, vous êtes encore chez vous là au moment où on se parle?
Non, je suis au boulot déjà.
Au boulot, vous faites quoi dans la vie?
J'ai une entreprise de nettoyage.
Entreprise de nettoyage.
J'ai déjà attaqué à 5h ce matin.
Ah oui, donc vous attaquez comme nous. On est avec vous. Mathieu qui est à côté de moi vous accompagne dès 5h. Et ça ne devrait pas se réchauffer, hein, Guillaume. Géraldine
non,
qui est avec moi.
Pas tout de suite, non, pas avant la fin de la semaine. Et du côté de Saint-Jean-de-Luz, il pourrait neiger la nuit prochaine. Attention, la nuit prochaine, demain matin, ça risque d'être compliqué.
Parce que de votre côté, Guillaume, il neige quand même très rarement, hein.
Oh, c'est tous les 4-5 ans à peu près, on a de la neige.
Ouais, c'est ça.
Donc, vous êtes le cas cette année.
Et ça a des conséquences aussi sur vos employés, tout ça? Est-ce que tout le monde fait attention?
Non,
est-ce que vous êtes plus attentif ou tout le monde réussit à peu près à braver le froid?
Non, tout le monde brave le froid. On a la chance de travailler pas mal en intérieur quand même sur des résidences. Donc c'est vraiment les transferts qui sont un peu plus frigo, un peu plus froid. Mmh. Et après, là, moi j'en ai quelques-unes en extérieur ce matin, donc ça va être on se couvre. Mmh. Mais des gants et on se couvre, mais ça va, c'est gérable. Une fois de temps en temps, tout va bien.
Si c'est une fois de temps en temps, effectivement, on gère et on trouve ça même un peu féerique. Voilà, si ça dure pas trop longtemps. Merci Guillaume, en tout cas, d'être passé par le 32-16. Il y a Nicolas qui bosse avec nous ici, dont la crèche pour son enfant, ils ont pas de chauffage. Donc la crèche est fermée aujourd'hui. Vous voyez, il y a quand même des endroits où on sait pas trop s'adapter. Et ça, c'est en plein Paris. Donc on pense à lui parce
chauffage,
que la journée avec les enfants va être plus dure.
Mais sinon, moi j'ai Christophe qui a 30 degrés, mais il est à Bombay.
Ah, il est à Bombay. Et il nous écrit sur le WhatsApp de l'émission. Vous n'hésitez pas, bien sûr, comme Guillaume, vous témoignez au 32-6 ou au 32-16 ou sur le WhatsApp.
06 12 424 424.
À tout de suite donc pour la suite des témoignages. Et puis cette question à la une, si vous êtes malade, attention, parce qu'il faudra passer par le 15. Les médecins libéraux en grève pendant 10 jours, ça commence aujourd'hui. Le gouvernement est même prêt à ordonner des réquisitions. Bonjour Jérôme Marty.
Bonjour.
Bonjour docteur, médecin des GG, les grandes gueules, et puis président bien sûr de l'un des plus gros syndicats de médecins, d'un de ces syndicats qui appellent à la grève, quasiment tous les syndicats d'ailleurs, unanimité des médecins. Aujourd'hui elle sera très suivie cette grève et vous nous expliquez les raisons de la colère dans un instant. À tout de suite, 7h40.
RMC, jusqu'à 9h, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h43 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Attention, les médecins sont en colère. En colère et en grève aujourd'hui, les médecins libéraux qui entament une grève de 10 jours et une grève qui s'annonce très suivie. Bonjour Jérôme Marty.
Bonjour Apolline.
Vous êtes le médecin le plus connu d'RMC, le médecin des GG, mais aussi président bien sûr de l'Union française pour une médecine libre, l'un des syndicats des médecins libéraux qui appelle donc à la grève aujourd'hui. Avant même de savoir pourquoi vous faites grève, je voudrais que l'on parle à ceux qui se sentent malades, qui commencent peut-être à perdre leur voix ou à sentir les premiers symptômes de la grippe. Que faire si on est malade aujourd'hui, puisque cette grève s'annonce très suivie? Est-ce qu'on peut quand même être soigné? Est-ce qu'on peut quand même appeler le docteur?
Ben écoutez, on a annoncé ce mouvement, nous, depuis 2 mois et demi et 6 mois pour la partie chirurgie. Donc le gouvernement a eu largement le temps de se retourner, le temps de préparer les choses. Là, on apprend qu'il réquisitionne à tour de bras. Il s'y prend un peu tard, probablement. La réquisition, c'est un peu l'arme des faibles. La négociation, c'est l'arme des forts. Ils préfèrent réquisitionner que négocier. Bon, pour les patients, il faut des médecins de toute façon. Donc, ils réquisitionnent. Il va y avoir des difficultés d'accès aux soins, ça c'est évident, c'est évident. Cette grève, elle va être dure, elle va être très suivie, vous l'avez dit, elle est historique. Mais on peut pas faire autrement, on a essayé de chercher d'autres moyens, malheureusement on n'en a pas. Le gouvernement n'a pas voulu nous écouter, il met en place tout un tas de mesures qui mettent à bas la médecine de France et la médecine libérale, qui s'attaquent au fondement même de la médecine, à la liberté de prescription, à l'indépendance professionnelle, il est évident qu'on peut pas laisser faire ça.
Alors, on va y revenir encore une fois, mais... vous ne m'avez pas répondu. Si on est malade, on fait quoi aujourd'hui? On appelle le 15 ou on appelle son médecin?
On trouve un médecin réquisitionné. Si on n'en trouve pas, on appelle
comment
le 15.
Comment on fait pour trouver un médecin réquisitionné? Ben, ça veut dire quoi?
Vous savez, en temps normal, c'est déjà difficile. En temps normal,
je
vous rappelle qu'il y a plus de 7 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. 100 000 Toulousains à Toulouse sur 650 000 Toulousains. Partout, il y a des déserts. Tout ça, c'est le fait justement de toutes les réformes qui ont été faites jusque-là. Et les politiques continuent dans cette même dynamique, sans écouter la profession, et donc ça va de mal en pis. Et nous, on est obligé de dire stop. Et malheureusement, quand on dit stop, ben on crée plus de problèmes pendant le temps du stop. Mais ça, on en est conscient, mais malheureusement, je vous l'ai dit, on peut pas faire autrement. On est des gens sérieux, on fait pas grève souvent. À la différence d'autres corporations, nous, on a annoncé ça des mois en avance. Ben maintenant, on y est. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Et j'en témoigne, puisque plusieurs fois, je vous ai eu en direct avec moi, soit sur RMC, soit sur BFM, pour alerter. Vous disiez, attention, si les choses ne changent pas, on ira à la grève. Et on y est. Une grève de 10 jours. Vous êtes très nombreux à faire grève, parce qu'il y a non seulement les médecins, mais il y a aussi les chirurgiens, il y a aussi les spécialistes, qui parfois vont même aller jusqu'à partir de France quelques jours pour ne pas être réquisitionnés.
Ouais, et puis il y a aussi les étudiants, il y a les externes, il y a les internes, il y a les chefs de clinique, il y a les médecins seniors, il y a les médecins retraités en activité, il y a les cliniques, et vous l'avez dit, les chirurgiens, les anesthésistes, les gynéco-obstétriciens qui, eux, en deuxième semaine, c'est-à-dire à partir du 11, font un exil symbolique en Belgique. Vous avez 2500 chirurgiens qui vont partir s'exiler symboliquement avec un départ de bus organisé le 11. Et puis, vous avez 8000 chirurgiens qui lèvent le bistouri. Vous avez des services entiers qui sont fermés. 8 cliniques sur 10 qui vont fermer. Enfin, voilà, ce mouvement, il est tout à fait historique et il est à l'aune de la violence qui est faite à notre profession.
On est d'autant plus étonné, j'avoue, docteur, que on parle énormément des déserts médicaux. On a plus que jamais besoin de vous. Comment le gouvernement a-t-il pu vous mettre si en colère et tous?
Mais parce qu'il n'a qu'un raisonnement qui est basé sur une économie à court terme. Et donc, ils mettent en place des réformes qui vont cisailler complètement la médecine de France. Je vous donne quelques exemples.
Oui.
Des médecins qui sortiraient des algorithmes opaques de l'assurance maladie, qu'elle est incapable d'expliquer. Bien, cela, on va les obliger à faire, par exemple, 30% d'arrêt de travail en moins. Si c'est votre médecin, Apolline de Malherbe, vous allez le voir et vous êtes du mauvais côté des quotas. À ce moment-là, il va vous dire, je suis désolé, je peux pas vous faire votre arrêt de travail parce que j'ai dépassé mon quota. Mais qu'est-ce que je fais, docteur? Allez voir un autre médecin. Mais il y en a pas. Mais vous aurez pas votre arrêt de travail. Et donc, voilà comment le gouvernement décide de priver des millions de Français d'un traitement, parce que leur travail est un traitement, uniquement par raison économique. Autre exemple, on donne au directeur de l'assurance maladie le pouvoir discrétionnaire de moduler la valeur de nos actes et donc de fragiliser économiquement quantité de cabinets, possiblement d'en faire fermer, alors même que 8 millions de Français, 7 millions de Français n'ont pas de médecin traitant.
Il n'y avait pas d'économie possible, docteur?
Si, il y a des économies possibles, mais intelligentes. Le problème, c'est que celles-ci ne sont pas intelligentes. Celles-ci, elles sont sur le court terme. Si l'on prend les internes aussi, on prend les internes, vous savez qu'on a rajouté une année à la médecine générale, une quatrième année. Là, on nous dit, pendant les discussions, les jeunes vont aller irriguer les territoires où l'on manque de médecins. On les prend pour des sprinklers qui vont irriguer les territoires où les politiques, par leurs erreurs, ont créé des déserts. Et puis, surtout, on modifie complètement cette quatrième année, on la sabote, on les paie pas à l'acte, on leur donne pas la possibilité de découvrir ce qu'est la médecine libérale. Et donc, au final, ils ne s'installeront pas. C'est complètement fou. On prend tout à l'envers. On fragilise les spécialistes qui ont des honoraires complémentaires. Vous savez que pour la chirurgie, par exemple, les actes de base n'ont pas été réévalués depuis 30 ans, Apolline de Malherbe. 30 ans. Donc, s'ils n'avaient pas d'honoraires complémentaires, ils ne pourraient pas opérer. Or, la chirurgie privée, c'est 70% des actes en chirurgie ambulatoire, par exemple. Donc, on peut pas, comme ça, bousiller par profit immédiat, par recherche de profit immédiat, quantité de secteurs de la médecine.
Est-ce qu'il y a le début du commencement d'une issue?
Ben, malheureusement pas. On a une ministre qui nous a écrit. Elle a basé son raisonnement sur la stabilité ministérielle en disant, mais rassurez-vous, tant que je suis là, je n'appliquerai pas cela. Sauf que c'est la 10e ministre de la Santé en quelques mois. Et sauf que dans le même temps, elle nous dit, j'ai une élection partielle le 18 janvier. Si je la perds, je m'en vais.
Dixième ministre de la Santé en 9 ans. Effectivement, c'est assez saisissant. Merci docteur. La grippe, est-ce qu'il faut s'en inquiéter, docteur?
Ben la grippe, il faut s'en inquiéter. Il est encore temps de se vacciner. On le rappelle, les personnes fragiles, les femmes enceintes, les personnes âgées, les gens qui ont des pathologies chroniques, vaccinez-vous. C'est encore temps. Et puis surtout, respectez les gestes barrières. C'est les mêmes pour la Covid. Vous vous sentez pas bien, mettez un masque. Évitez de vous isoler dans des milieux où il y a beaucoup de personnes, des milieux confinés, pour vous protéger.
Ça vaut la peine de le rappeler. Merci en tout cas, docteur Jérôme Marty, en grève aujourd'hui, médecin et président donc de l'Union française pour une médecine libre. Il est 7h50. Dans un instant, c'est la voix de droite, Louis Sarkozy, que l'on retrouve. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Oh bah dis donc Louis, j'espère que vous avez entendu le docteur. J'ai l'impression que vous allez avoir besoin de petites pastilles pour la gorge. Prenez soin de vous. Mais cela dit, on va quand même écouter vos propos sur Donald Trump qui a surpris le monde entier en ordonnant la capture du président du Venezuela. C'est la fin du droit international.
Effectivement, on pensait que l'ONU allait régler tous les conflits de la Terre. C'est faux. C'est la force qui domine encore et toujours.
À tout de suite Louis Sarkozy sur RMC. Il est 7h51.
RMC. Apolline Matin.
Le bonus, Mathieu, et même après les fêtes, on continue de parler du loup d'Intermarché.
Vous l'aimez, ce loup, hein, ah. Un peu, je sais. La pub, le dessin animé des hypermarchés qui fait un carton mondial, vous le savez. Ce loup qui se met à cuisiner des légumes pour servir un repas de Noël à ses amis de la forêt sans leur faire peur. Une histoire qui rappelle une légende normande, Apolline, à Pavilly, en Seine-Maritime. On se souvient de l'histoire du loup vert. On est au 7e siècle. Un loup avait dévoré un âne et avait dû s'excuser et changer de comportement, même devenir végétarien après une rencontre avec Sainte Austroberte. C'est ce que dit la légende. Alors le maire de Pavilly est malin, il demande un coup de pouce à Intermarché pour restaurer la chapelle Sainte Austroberte, justement, classée monument historique, très dégradée. Il manque 2 400 000 euros pour sa réhabilitation, une somme que la commune n'a pas. Alors coup de pub et en même temps qui ne tente rien à rien, on verra si Intermarché est sensible à la cause du maire normand après que la vidéo du conte de Noël avec le loup gentil a dépassé le milliard de vues sur les plateformes.
RMC, Apolline Matin, voix de gauche, voix de droite.
Il est 7h53 et comme tous les lundis, c'est le retour de la voix de droite. Louis Sarkozy, bonjour Louis. Le président américain Donald Trump a choqué le monde en faisant capturer le chef d'État vénézuélien Nicolas Maduro. Bonne ou mauvaise nouvelle pour vous, le libéral ?
Alors écoutez, soyons clairs, Maduro était un narco-dictateur parfaitement illégitime et insupportable en soi. Bon débarras, tant mieux pour le Venezuela, tant mieux pour l'Amérique latine et tant mieux pour le monde. Le problème, Apolline, n'est pas là. Le problème, c'est l'après. Hier, un régime est tombé de façon spectaculaire grâce à une brillante opération militaire américaine. Aujourd'hui, l'avenir politique est incertain. Ça vous rappelle quelque chose ? L'Afghanistan, l'Irak ?
Avec évidemment cette question, qu'est-ce qu'on fait du droit international ?
Alors il dit, et je le dis en le regrettant, enterré à jamais. Il n'y a plus que nous, Européens, à ne pas nous en rendre compte, à penser que nous vivons encore dans un monde régi par ces dictats. Le droit international fut une belle et brève parenthèse de l'histoire humaine dans un monde qui demeure encore et toujours dominé par la force.
Donc il ne faut plus être naïf, c'est ce que vous nous dites. Ça crée un précédent évidemment inédit. Qu'est-ce qu'on va dire demain à la Chine si elle veut faire la même chose avec Taïwan ou Poutine avec Volodymyr Zelensky ?
Enfin, Apolline, vous raisonnez comme une parfaite européenne à ce que je vois. Les Chinois ne se retiennent pas de capturer le chef d'État taïwanais par crainte du droit international. Ils se retiennent parce qu'ils ont peur de la force américaine. Et Poutine a déjà tenté d'éliminer Zelensky. Ce qui le freine, ce n'est pas les condamnations mielleuses de notre gauche. Ce qui le freine, c'est la résistance des Ukrainiens. Tant que nous, Européens, n'aurons pas compris cela, l'avenir restera dangereux. Parce que celui qui veut la paix, comme toujours, est celui qui prépare la guerre.
Alors, Emmanuel Macron, lui, prend acte de cette décision. Il dit même se réjouir de la fin de la dictature Maduro. Et cette déclaration, elle est jugée honteuse par la gauche. Vous parliez de la gauche à l'instant. L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, lui, juge la réaction d'Emmanuel Macron, je cite, « aveugle et irresponsable ».
Oui, alors moi je juge que la gauche, où j'inclus d'ailleurs Monsieur de Villepin, est piètre stratège. Notre problème en Europe, Apolline, c'est la Russie. Nous voulons à tout prix préserver l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine, faute de quoi notre crédibilité et nos intérêts seraient gravement menacés. Or, nous dépendons dans ce combat de notre allié le plus puissant et le plus imprévisible, Donald Trump. À quoi bon, Apolline, aller le froisser sur le Venezuela? Que veut la gauche? Une condamnation médiatique qui, certes, serait agréable à entendre, mais qui n'impliquerait rien, si ce n'est des représailles américaines. La bonne diplomatie, ma chère Apolline, c'est aussi savoir quand il faut se taire.
Merci Louis Sarkozy, voix de droite sur RMC. Et je crains qu'aujourd'hui il faille effectivement que vous vous taisiez un peu pour réparer votre voix. Bonne année tout de même. Et effectivement, prenez soin de vous aujourd'hui. Un bon thé, merci. Du miel et du thym dans le thé. Ça marche.
Vous me l'avez fait une fois, ça marche.
Exactement. J'avais fait une petite tisane, c'est vrai, pour notre Manu Le Chypre, qui, vous l'entendez, vient de rentrer dans ce studio et qui va nous parler d'économie dans un instant. Avant cela, il y aura le journal de 8h. Il neige sur l'ouest de la France. Les transports scolaires sont suspendus en Bretagne et en Normandie. On sera en direct sur place dès le début du journal. La météo, évidemment, avec un point sur ces 23 départements en vigilance. Et juste après le journal, vous l'avez entendu, Emmanuel Le Chypre va nous parler d'économie. Emmanuel, vous commencez l'année avec une bonne nouvelle. Nos tarifs d'électricité vont baisser.
Oui, mais alors paradoxalement, c'est que ça ne dépend pas de tous les changements fiscaux. Ça dépend de vous.
De nous ?
De vous.
Vous nous le dites dans un instant. 7h57 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.